I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, fait avec amour, préparé avec amour, c'est cadeau.
Salut, c'est Thomas Rozek. Autant le dire clairement, cette fin d'année 2020 est marquée par une nouvelle vague. Alors, je ne vais pas ici parler du virus qui nous aura tenus bien occupés, mais d'une autre épidémie, plus ancienne, plus longue, et pour laquelle le traitement peine à émerger. Ce sont les violences policières. Après la diffusion des images très choquantes du tabassage en règle d'un producteur de musique à Paris, après les scènes lamentables de journalistes cognés et de sans-abri malmenés place de la République, après aussi les prises de position plus que guerrières du ministre de l'Intérieur vis-à-vis des libertés publiques, on se dit que le sujet n'a pas fini lui non plus de nous préoccuper. D'ailleurs, on a déjà eu par le passé l'occasion à de nombreuses reprises de s'intéresser aux travers brutaux et racistes des forces de l'ordre. La preuve, avec cet épisode daté du mois de juin 2020 que je vous propose de réécouter. À l'époque, nous nous étions interrogés sur les angles morts des réflexions qu'on peut encore entendre ça et là au sujet de la police, et notamment sur son histoire méconnue, où on trouve sans doute quelques-unes des prémices de la situation actuelle. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue dans Programme B. Cet épisode, il est notamment né de la lecture d'une tribune dans Libération, signée par l'universitaire franco-américain Grégory Pierrot. Il enseigne la littérature américaine à l'université du Connecticut. Cette tribune, elle s'appelle « Aux racines du racisme systémique de la police ». J'ai passé un coup de fil à Grégory Pierrot pour qu'il nous explique ses racines, justement, et ce qu'elles lui inspirent.
Après avoir vu certaines des réponses de journalistes, de commentateurs français, notamment celle d'Éric Brunet, une émission avec Maboula Soumaoro, où il s'emportait, parlait de ce qu'il semblait croire être des différences fondamentales entre la France et les États-Unis, notamment au niveau de l'absence prétendue de racisme systémique en France. Ça m'avait un peu choqué.
Je trouve que ce débat est abject et j'ai même été gêné d'entendre la porte-parole à l'instant du ministère de l'Intérieur dire « Non, nous ne sommes pas une institution raciste, mais quelle est accusée ? Une institution de la République, enfin la France, qui a fait Félix Éboué, la France même à l'époque des Bourbons qui a anobli le chevalier Saint-Georges, qui était un chevalier, qui était un noir. Il y a du racisme en France,
qui
bien sûr.
Qui meurt aux mains de la police en France ?
Il n'y a pas un système raciste.
Qui meurt aux mains de la police en France ?
Même quantitativement, la police tue chaque année des gens, d'ailleurs en interpellation, etc. Mais franchement, sur les 15 morts qu'il y a eu l'année dernière, c'est essentiellement des terroristes. On ne peut pas comparer la police française à la police américaine.
C'est un discours qu'on entend assez souvent en France. Hein. J'ai grandi avec ça. Et en ce moment, on l'entend vraiment très, très souvent. Et pour moi, ça part vraiment d'une méconnaissance assez profonde de l'histoire de France, en fait. Donc, ça me paraissait indispensable justement de montrer, prendre l'histoire française qui reste méconnue, justement de déplacer un peu la question, à savoir, en fait, il y a une histoire systémique raciste de l'institution, de la police, et je pense que c'est important justement dans cette conversation, surtout quand on voit qu'un des arguments principaux des gens qui prétendent que ça n'existe pas, c'est cet appel donc à l'histoire, supposément. Une des choses que j'ai découvert, je ne veux pas dire c'est moi qui l'ai découvert, c'est une des choses que j'ai découvert personnellement donc en travaillant là-dessus, c'est précisément la contribution, à quel point la police française, notamment dans sa constitution moderne, donc à partir de l'Ancien Régime, mais aussi à travers plutôt le Premier Empire et le Consulat, est en fait profondément raciste. Donc c'est une période où on voit très rapidement, donc à la fin de l'Ancien Régime, se développer des lois raciales aux colonies, donc dans les colonies antillaises, mais aussi en métropole. Et ces lois sont notamment donc, appliquées par la police. L'esclavage en France donc, est organisé par le Code noir 1685, donc série de lois pour les esclavagistes, aux Antilles, censé diriger la manière dont ils se comportent avec les esclavisés et aussi la manière dont ils sont censés les traiter en bien ou en mal. Mais ces lois donc, sont des lois d'exception d'une certaine manière. Elles ne sont pas censées s'appliquer en France parce qu'en France, depuis le XIVe siècle, donc, on a ce qu'on appelle le sol libre, enfin le principe du sol libre, à savoir qu'il n'y a pas d'esclaves en France. Donc, des lois particulières s'appliquent seulement aux colonies, dont le Code noir. Mais le problème qui se pose très rapidement, c'est que les esclavagistes des colonies viennent très souvent en métropole avec des esclavisés. Et ce problème, bon, c'est un problème légal. Si on arrive, si en métropole il n'y a pas d'esclaves, qu'est-ce qu'on fait quand un esclave arrive en métropole ? Et ça devient donc très très rapidement un vrai problème. Ce qui est intéressant aussi, dont je ne parlais pas dans la tribune, c'est que c'est un problème européen. Il y a la même situation en Angleterre est très connue dans l'histoire abolitionniste anglaise, parce que c'est vraiment le début de l'abolitionnisme anglais, donc aussi à la fin du XVIIIe siècle, est basé sur le même problème. Donc, des esclavagistes anglais reviennent en Angleterre avec des esclavisés qui, bon, soutenus par des abolitionnistes, des Quakers notamment, et aussi, enfin, le début de ce mouvement, poursuivent les esclavagistes devant des tribunaux. Et donc, on sont obligés d'essayer de trouver un moyen de régler cette contradiction, savoir s'il n'y a pas d'esclavagisme en Angleterre ou en France, qu'est-ce qu'on peut faire des esclaves. En France, donc à partir de 1716, il y a plusieurs séries d'édits qui sont écrits pour essayer de régler ce problème, si vous voulez. On commence à essayer de trouver des mesures d'exception pour les esclavagistes. Donc, si vous déclarez les esclavisés, vous pouvez, je ne me rappelle pas forcément exactement des périodes, mais vous pouvez garder des personnes en esclavage en France si vous restez un certain temps ou si vous venez simplement pour qu'ils apprennent un métier, par exemple. Donc, pour les former à, je sais pas, devenir coiffeur, par exemple. Donc, le temps de leur formation, ils peuvent rester en France tout en étant esclavisés, mais c'est une mesure d'exception. Alors, en 1716, 1738, il me semble, donc, il y a certaines lois ainsi qui sont créées, qui permettent donc à ces esclavagistes de venir avec des esclavisés et de les garder en esclavage. Le problème, c'est que les esclavagistes ne font pas ce qu'ils sont censés faire, ils ne déclarent pas les esclavisés, les lois sont là pour eux, mais ils n'ont plus ou moins rien à faire. Et aussi, ces lois ne sont pas reconnues par tous les parlements de France. Donc, ces décisions. Donc, ce sont des décisions qui sont prises au niveau donc des autorités royales, mais qui n'ont pas forcément à être reconnues. Alors, elles ont tendance à être reconnues dans les villes portuaires, hein, donc qui ont des histoires esclavagistes. Mais par exemple, à Paris, le Parlement de Paris refuse de reconnaître ces lois. Donc, les esclavisés ou certains esclavisés, on ne parle pas non plus de population énorme, hein, mais tout de même, enfin, on parle de milliers de personnes, de milliers de Noirs au XVIIIe siècle en France. Pas tous esclavisés, bien sûr, mais de bonnes dizaines d'entre eux se rendent compte que s'ils viennent à Paris et donc demander devant les tribunaux de Paris la liberté, en fait, bon, très, très souvent, ils l'obtiennent. Alors, vous voyez encore une fois le problème, c'est savoir que les lois sont là pour protéger les esclavagistes qui n'en ont rien à faire. Et donc, les autorités royales cherchent encore à trouver mieux. Et donc, on en arrive en 1777 à la police des Noirs. Donc, le nom peut être un peu déroutant. Il ne s'agit pas donc d'un... Enfin, la police, ici, veut dire la loi, en fait. Sachant que la police, comme on la connaît, le service de police, c'est le service qui applique les polices. Ici, donc, il s'agit tout d'abord d'une loi s'appliquant aux Noirs. Et ce qu'elle dit, c'est que les Noirs, donc qu'ils soient libres ou pas, qui viennent en métropole, doivent se faire déclarer. Donc, s'ils sont esclavisés, comme on l'a vu tout à l'heure, les esclavagistes sont censés les déclarer dans les villes portuaires et éventuellement les mettre dans ce qu'on appelle dans des dépôts de Noirs. Donc, ce sont des prisons. On garde les esclavisés plutôt que de les laisser circuler donc en métropole, sachant qu'ils pourraient éventuellement demander la liberté. Les gens de couleur ou les noirs libres doivent se déclarer et doivent obtenir un passeport particulier donc et complètement racial auprès des autorités donc du ministère de la Marine qui à l'époque s'occupe des colonies. Et c'est ce qui leur permet de circuler librement en métropole, sachant que s'ils n'ont pas ces papiers, ils peuvent se faire expulser. Et donc ça, c'est voté en 1777, et c'est la loi qui a lieu jusqu'à la Révolution française. Pour finir là-dessus, ce que j'ai trouvé il y a assez récemment, c'est qu'en fait, c'est encore plus drastique que les lois précédentes, mais les mêmes choses arrivent, sachant que les esclavagistes ne déclarent toujours pas forcément les esclavisés. Les esclavisés peuvent toujours aller au Parlement de Paris et obtenir la liberté. Mais ce qu'on voit arriver de plus en plus souvent à partir de 1777, c'est que les esclavagistes, à ce moment-là, sachant qu'ils ont perdu devant les tribunaux, demande aux autorités royales de faire capturer les esclavisés, donc libérés légalement, passer au-dessus des tribunaux, passer au-dessus de la loi, les faire capturer pour les ramener dans les dépôts noirs et les renvoyer aux Antilles. Donc, évidemment, les services de police de l'ancien régime ne sont pas vraiment organisés comme ceux qu'on connaît maintenant, mais ça reste les ancêtres de la police qu'on connaît. Et c'est leur responsabilité. Donc, les inspecteurs de police, notamment à Paris, passent au-dessus des tribunaux de l'époque pour éventuellement capturer des anciens esclavisés. Donc, la Révolution française change tout ça. En 1791, la loi est abolie. Mais cette loi est rétablie en 1802 par Napoléon, à l'époque où il rétablit aussi l'esclavage. Et donc, la police de Napoléon, donc organisée par Fouché, c'est vraiment la base de la police moderne telle qu'on la connaît. Et une des choses qu'ils organisent, notamment, c'est un recensement de la population noire française, et bon, vraiment très particulier, hein, sachant que sous l'Ancien Régime, toutes ces lois sont bon, appliquées de manière un peu plus au cas par cas, mettons. Sous Napoléon, ça devient vraiment systématique. Hein. Et Napoléon, le rétablissement de l'esclavage, une exception française, hein, il n'y a aucun pays au monde qui a aboli l'esclavage pour le rétablir, mais quand il le rétablit, il vient pour chasser les gens de couleur de métropole, hein, sachant qu'il y a beaucoup d'officiers notamment. On a entendu parler, enfin, assez du cas du général Dumas, donc, parce que bon, évidemment, c'est le père d'Alexandre Dumas, il est assez connu, qui a dû subir la vindicte personnelle de Napoléon, mais c'est le cas de la plupart donc des gens de couleur libre qu'on trouve en France à l'époque. Donc, l'outil principal de cette politique sous Napoléon, c'est bien la police.
Ce qui frappe également, c'est que cette histoire de l'implication raciste de la police et de l'usage raciste de la police, de l'utilisation de l'institution policière comme une arme raciste, très clairement, de l'État, c'est pas un cas isolé dans l'histoire de France. Et ça se retrouve très fortement dans des périodes beaucoup plus proches de nous, au moment où la France soldait son empire colonial, et dans les années 50-60, notamment lors de la guerre d'Algérie.
Bah, moi, ce qui me fascine à ce niveau-là, j'en parle vraiment, il me semble que j'ai peut-être une demi-phrase là-dessus dans la tribune, le lien est évident, et les liens particuliers sont même troublants, oui, d'une certaine manière, mais la ligne est tellement claire, en fait. Plus on regarde, plus ça devient hallucinant de voir à quel point les gens préfèrent ignorer cette ligne historique. Donc, ce dont je parlais en passant dans l'article, mais qui pour moi est au cœur de cette ligne, le système raciste colonial au XVIIIe siècle, c'est principalement les Antilles, hein, bien sûr. Et donc, on ne peut pas en parler sans parler de la Révolution haïtienne. Mais ça aussi, c'est un angle mort absolu de l'éducation française qui est... c'est aussi une de ces choses. Tous les gens que je connais qui travaillent sur la Révolution haïtienne, en ce moment, où... Enfin, ils se rendent compte, mais comment est-ce possible d'enseigner la Révolution française sans parler de la Révolution haïtienne? Plus on lit là-dessus, plus on se dit c'est absolument incroyable. C'est tellement au cœur de tellement de choses depuis, l'abolition de l'esclavage, mais aussi le jacobinisme, le putsch de Napoléon, le rétablissement de l'esclavage, la vente de la Louisiane, enfin tout ça à voir avec une révolution dont on n'entend pas un mot. Et une des choses aussi qui sont liées à ça, c'est à la fois l'histoire de la police, donc des services de police, mais aussi du colonialisme français, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui voient dans la conquête de l'Algérie une espèce de revanche pour la perte d'Haïti. Chronologiquement, c'est assez intéressant. Donc, en 1825, la France reconnaît finalement l'indépendance d'Haïti après avoir extorqué un tribut incroyable donc du pays. Donc, en 1825, finalement, la France, ça devient clair que la France ne va pas essayer de réenvahir Haïti, sachant que pendant 20 ans, ça a été c'était très probable. Hein, tout le monde s'y attendait un peu, mais du coup, Charles X donc se tourne vers l'Algérie. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a énormément, il y a un nombre assez surprenant d'officiers qui participent à la campagne d'Algérie, qui étaient à Saint-Domingue et en Haïti. Et arrivés en Algérie, ils appliquent directement les mêmes politiques d'extermination qu'ils avaient développées en Haïti, à Saint-Domingue. Donc, j'utilisais ce personnage en particulier de Pierre le Cruel, mais bon, ce n'est pas le seul, hein, mais bon, c'est un peu... son nom dit un peu tout ce qu'on a besoin de savoir sur lui. Hein. Il se fait connaître très rapidement, il est gouverneur à Oran. Il se fait connaître pour des massacres incroyables, des exécutions sommaires, et donc des choses qu'il avait développées en Haïti. Donc, j'en parlais, il est tellement brutal qu'il se fait le démettre de ses fonctions, mais il devient ensuite chef de la gendarmerie en métropole.
D'une manière générale,
ce que cette histoire que vous mettez en lumière, cette partie de l'histoire que vous mettez en lumière avec cette tribune, ça révèle, et c'est d'ailleurs là-dessus que vous concluez l'article dans Libération, c'est que on est en permanence confronté à ces angles morts, ou plutôt on évite en permanence de se confronter à ces angles morts de l'histoire. Et moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi, en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on continue à entretenir des mythes nationaux qui ne sont plus vraiment de l'histoire, ou alors une version extrêmement simplifiée, et tout en excluant tout ce qui permettrait de comprendre en grande partie la situation actuelle, ou les situations actuelles.
En toute sincérité, ça me paraît, enfin, non seulement contre-productif, mais aussi enfin, d'une hypocrisie assez infernale. On ne parle pas d'une histoire cachée, en fait. Hein. Ces documents sont là, ils sont accessibles. Bon, faut savoir les trouver, hein, c'est évidemment un autre problème. Mais bon, voilà, c'est trouvable. Ça existe, les gens le savent, c'est pas des inventions, c'est l'histoire de France. Je pense, pour y avoir beaucoup réfléchi, il me semble, enfin, l'idée, ça doit être aussi cette espèce d'exception française, enfin, cette idée justement qu'il y a un projet français qui est unique et mieux que tous les autres. Pourquoi chaque critique qu'on puisse y apporter devient un problème ? En toute sincérité, je ne comprends pas. Je pense qu'il y a une idée justement que le progrès doit toujours aller dans un certain sens et que toute histoire qui prouve que le progrès ne va jamais en ligne droite devient problématique potentiellement. Voilà, je peux spéculer en toute intériorité, je comprends pas du tout. Moi, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Enfin, le projet universaliste français, c'est pas un anathème, c'est au contraire. En fait, c'est vraiment, enfin, il y a quelque chose dans l'esprit qui est admirable, en fait. Le problème, c'est pas ce qu'on a fait. Enfin, c'est perfectible. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui demandent d'être réglés plutôt que d'être ignorés. Et vouloir les ignorer, pour moi, c'est travailler contre ce projet, en fait. Je pense sincèrement, et c'est là donc que ces idées sur le racisme systémique deviennent, à mon avis, très importantes. Je pense qu'il y a des comportements dont on ne se rend pas forcément compte et qui font partie de la manière dont on apprend la France, dont on considère la France, dont on imagine que c'est censé se passer. Et du coup, quand on est confronté à ces problèmes, bon, c'est pas facile, en fait, j'imagine. On le voit souvent dans les réactions. Il y a quelque chose d'assez aussi systématique, hein, quand on parle de ces questions, c'est que des individus vont dire « oui, mais vous me traitez de raciste », alors qu'en fait, à aucun moment, personne ne dit ça. Mais on voit bien que c'est pris personnellement comme une insulte. Alors que voilà, justement, c'est pas pour rien qu'on parle de problèmes systémiques, on parle d'autre chose, quoi.
Ce qui, moi, me frappe, mais je me doute que vous n'aurez pas forcément la réponse, parce que c'est une question extrêmement vaste et à laquelle il n'y a peut-être d'ailleurs pas de réponse, mais c'est qu'il y a comme un paradoxe entre, d'un côté, une histoire qu'on n'enseigne pas et qu'on ne transmet pas, c'est-à-dire une mémoire qu'on n'entretient pas du tout de ces dérives-là et de ces échecs-là, de ce projet de la France qui serait justement, qui ne serait jamais parvenu à délivrer ce qu'il avait promis. Donc cette mémoire qu'on n'entretient pas, et de l'autre, une mémoire presque inconsciente qui se transmet au sein d'une institution qui continue à perpétrer des biais racistes qu'elle a développés du fait de son histoire.
Je pense qu'on ne peut pas voir l'un sans l'autre, en fait. Et je pense que c'est ce qu'on voit notamment en ce moment. L'oubli historique est ce qui permet la mémoire inconsciente et de la laisser au niveau de l'inconscient, d'une certaine manière. Justement, c'est parce qu'il y a oubli historique que quand on prétend parler de racisme systémique, les gens peuvent prétendre que ça n'existe pas. Parce que justement, enfin, l'inconscience, voilà, c'est mon impression, c'est peut-être dans la tête, enfin, il y a un côté comme ça, est-ce qu'une institution peut avoir un inconscient? Bon, peut-être que le terme, voilà, c'est, on a l'impression que c'est peut-être un peu trop psychologique, mais bon, enfin, je suis complètement d'accord, hein, pour moi, ça s'applique carrément, mais c'est aussi, c'est aussi une culture, tout simplement. Et comment se passe la culture? Ben, on voit beaucoup de témoignages en ce moment. C'est la pression des pères, des choses qui se font sans être expliquées de vive voix. C'est une culture de corporation. Enfin, les gens se comportent d'une certaine manière. On connaît ça. Il suffit de travailler dans une entreprise ou dans des groupes. Il y a des espèces de comportements comme ça qui se reproduisent sans qu'on ait besoin de les écrire. Et là, évidemment, quand on parle d'institution de la République, ça devient un vrai problème pour ce type de comportement. Et je pense que justement, la manière dont ça se perpétue, c'est précisément parce que ces deux, la mémoire et le comportement institutionnel d'une part et l'histoire officielle hein, de l'autre, sont restés complètement séparés. C'est assez fantastique d'ailleurs de voir ça, parce qu'on disait tout à l'heure, les livres d'histoire sont là. Voilà, ces informations, je les ai pas inventées, mais c'est une histoire qui, oui, bon, évidemment, passe beaucoup moins bien que, mettons, c'est pas une histoire de la résistance, par exemple.
Et sur la résistance aussi, les angles morts ne manquent pas, notamment sur la place des populations noires dans ces mouvements et sur leur exclusion a posteriori de la mémoire collective. Merci à Grégory Pierrot pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de lire des livres d'histoire, c'est important. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.